Vous avez branché vos appareils, vos traducteurs.
C'est parti.
Oui, ça marche. C'est bon. Bien, bah écoutez, frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous ce soir. C'était tout à fait inattendu. Toby nous a contactés ce matin. Et puis, bon, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà, parler de l'ascension. Vous avez fait le compte, vous avez entendu, dans le livre des Actes des Apôtres, 40 jours après la résurrection de Jésus. Voilà, nous y sommes, le jeudi de l'ascension. Une fête chrétienne qu'on oublie parfois, à part que ça nous donne un peu de vacances, mais pourtant elle est très importante finalement. L'ascension, c'est dans la Bible le moment qui nous explique comment il se fait que nous soyons réunis au nom de Jésus, que nous puissions nous adresser à Jésus, que nous puissions glorifier Jésus ressuscité, nous ne le voyons pas. Voilà. Et pourtant, il est tout aussi présent au milieu de nous que quand il était avec ses disciples, mais d'une autre manière. Et l'ascension nous dit, ben voilà, Jésus est monté au ciel. On parlait de l'expression « adieu » tout à l'heure. Voilà. Jésus est monté à Dieu. Enfin, il est revenu dans le domaine qui était le sien. Je lisais un commentaire biblique hier qui parlait de l'ascension de Jésus, mais aussi de sa descension. Alors ça, c'est difficile à traduire en parsi, je pense. C'est-à-dire le fait que voilà, Dieu s'est fait homme, il est venu nous rejoindre dans notre humanité. Mais ça n'a eu qu'un temps. Il fallait qu'il se révèle de cette manière-là et qu'il accomplisse notre salut. Et il est retourné. Jésus est retourné dans le domaine de son Père. Et pourtant, il est encore présent aujourd'hui. Voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu cela, mais de manière, en nous aidant justement des deux textes qui ont été proposés. Ça tombe bien, mais ce n'est pas tout à fait un hasard. C'était les deux textes que j'avais prévus, donc comme ça, ils sont lus, vous les avez entendus, et vous les avez peut-être encore à disposition dans vos... J'ai envie de commencer la méditation de ce soir, donc ce n'est pas une prédication, hein, ce serait un peu moins long, rassurez-vous. J'ai envie de commencer la prédication de ce soir en me rappelant la dernière parole, une des dernières paroles de Jésus sur la croix. Dans l'évangile de Luc, c'est la dernière parole de Jésus. Est-ce que vous savez quelle est cette parole? C'est pas tout est accompli, mais ça pourrait, bien sûr. C'est l'autre, enfin une autre, il y en a sept, une parole de Jésus sur la croix. C'est... Oui? Voilà. Père, entre tes mains... Je remets mon esprit. Père, Jésus est mort avec cette parole de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et je me suis demandé si finalement l'ascension n'était pas annoncée. C'est pas seulement cela que dit le cri de Jésus, bien entendu. Mais si l'ascension n'était pas annoncée par ce cri de Jésus, cette aspiration, ce désir de Jésus de tout remettre entre les mains du Père et de revenir dans la maison du Père. Jésus a vécu l'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort. On vient de le chanter, puis je vois que c'est même affiché là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ce Fils unique a tant aimé le monde de la part du Père qu'il a accompli toute la volonté du Père. La vie de Jésus fut entièrement donnée au Père et aux hommes, aux êtres humains que nous sommes. Et dans la mort, sur la croix, il s'abandonne. Il est tout à Dieu. En fait, il est Dieu. Dieu qui se donne dans la personne de son Fils. Et c'est pourquoi il a vaincu la mort. C'est pourquoi il avait la puissance de vaincre la mort. Le Christ est ressuscité. Voilà, nous l'avons célébré à Pâques. Et la vie éternelle, finalement, c'est cela, appartenir à Dieu pour toujours. Appartenir à Dieu pour toujours, dès maintenant et pour toujours. Et je crois que c'est l'un des enseignements des récits de l'ascension du Seigneur. Que fait Jésus dans les moments qui précèdent son ascension, donc dans les textes que nous avons lus dans Luc et dans les Actes tout à l'heure? Eh bien, Jésus parle. Il parle. Il rappelle à ses disciples son œuvre de salut, ce qu'il a fait pour eux. Il leur rappelle sa mort et sa résurrection selon les Écritures. Il rappelle que tout ce qu'il a fait, c'était le grand projet de salut de Dieu. Uni à la volonté du Père, un seul esprit avec lui. Hier, nous commentions, j'avais une étude biblique sur le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, où l'on voit que Paul parle, parfois dans le même verset, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Christ, ou même Christ lui-même. Christ vit en vous, c'est synonyme chez Paul de l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est important de s'en rappeler pour bien comprendre ce que nous dit Jésus aujourd'hui. Donc, Jésus est un seul esprit avec le Père. Ils ont le même Esprit Saint. Il est rempli de la plénitude de la divinité, nous dit Paul, et il enseigne à ses disciples la même fidélité que lui, la même obéissance. Et ça va être à eux, désormais, d'être ses témoins. C'est ce qu'il a dit dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Et puis, après avoir expliqué tout cela à ses disciples, Jésus ne fait plus rien. Enfin, plus exactement, il se laisse faire. C'est très beau. Il se laisse faire. Il ne monte pas lui-même au ciel. Vous n'avez pas vu qu'il prenait une échelle pour monter au ciel, ou qu'il battait des ailes, ou je ne sais quoi. Non, il ne monte pas lui-même au ciel. Le texte nous dit qu'il fut emporté au ciel. De même, Jésus ne disparaît pas de lui-même, mais le texte nous dit qu'une nuée vint le soustraire à leur regard. Alors, qui est acteur dans tout cela? Qui agit? Personne n'est mentionné. Mais dans l'Ancien Testament, il arrive ainsi que ce soit l'action de Dieu qui soit suggérée. Parfois, nous avons des formes du passif en grammaire. Il a été fait, par exemple, pour nous dire que c'est Dieu qui agit, mais sans le nommer. C'est une manière de sauvegarder le mystère et le respect dû au nom de Dieu qu'on ne prononçait pas. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, s'était écrié Jésus, et maintenant, dans le silence d'un brouillard, quelque chose assez mystérieux, qui sauvegarde le mystère, le Père accueille celui qui fut tout pour lui. Et que font les disciples de Jésus dans les moments qui précèdent son ascension? Eh bien, ils vivent une expérience inverse à celle du Seigneur. Pour commencer, ils ne font rien. Ils sont presque passifs, même pire que ça. Ils avaient fui au moment de l'arrestation de leur maître. Ils se cachaient, donc il valait mieux qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne fassent rien. Ils se sont cachés par peur des autorités. Et alors, en fait, c'est Jésus qui les a rejoints. C'est Jésus qui est allé vers eux. Ils ne l'ont même pas cherché. C'est Jésus qui les a rejoints. Et c'est à eux, nous dit le livre des Actes, au verset 3 que nous avons lu, c'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ou bien, pareil, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Et cette expression intéressante. Il s'était fait voir. On ne dit pas que c'est eux qui l'ont vu. Bien sûr qu'ils l'ont vu. Mais ils l'ont vu parce que c'est Jésus, encore une fois, qui agit en eux pour qu'ils le reconnaissent et pour qu'ils le reconnaissent vraiment. Ce sera aussi le cas plus tard pour l'apôtre Paul. Vous voyez, les premiers disciples sont pris par la rencontre éblouissante et inoubliable du Christ ressuscité. Une rencontre que Jésus a initiée, dont Jésus a eu l'initiative. Ils ne sont en fait que récepteurs, comme on dit aujourd'hui. Le mouvement de Jésus vers son Père se retourne en leur faveur. Entre leurs mains, qui étaient pourtant peu prêtes à l'accueillir, c'est Jésus qui se remet. Curieux, entendu tout à l'heure, Jésus disait « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et maintenant, Jésus va remettre son esprit entre les mains de ses disciples. Ce sont les mêmes expressions qui sont employées pour nous montrer ce mouvement d'ascension et de descente. On en reparlera. Parce qu'effectivement, nous dit le verset 5 que nous avons lu, Jésus leur donnera bientôt son esprit. Ça, c'est la Pentecôte. Hein, c'est bientôt, dans 10 jours. Mais on en parle déjà maintenant parce que l'ascension est inséparable de la Pentecôte puisque Jésus fait cette promesse. Et puis, cette fois-ci, donc les disciples ne faisaient pas grand-chose. Ils ne faisaient qu'être récepteurs, si je puis dire. Et maintenant, Jésus disparaît. Ça, c'est l'expérience de l'Église. Nous vivons notre foi avec Jésus que nous ne voyons plus. Et c'est bien normal que nous ne le voyons plus parce qu'il a choisi de se rendre présent autrement, bien plus présent encore que s'il était possible de le voir encore. Alors Jésus disparaît. Les disciples restent seuls maintenant sur le devant de la scène, on peut dire, après l'ascension de Jésus. Jésus leur avait dit, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est vrai que d'être avec vous ce soir, avec tout ce que Toby m'avait raconté, sur toutes ces personnes qui vous rejoignent et qui viennent des extrémités de la terre, c'est tout à fait une expression de ce que nous vivons, de ce que disait Jésus dans ses paroles. Ce soir, nous représentons plusieurs continents. Et c'est formidable de se dire que Jésus nous a rejoints et qu'il nous rassemble même à cette extrémité de la terre qui s'appelle le Creusot. C'est quand même un peu le bout du monde. Hein. Trop de monde. Voilà. Voilà comment l'Église, corps du Christ, prend naissance. Le ressuscité se laisse désormais porter ici-bas par ceux qu'il a choisis. Tel est le choix de Dieu, de se laisser porter par nous. Incroyable quand même. Quel honneur il nous fait, quelle grâce. Et heureusement qu'il y ait eu l'ascension pour que Jésus puisse ensuite nous donner l'esprit et choisir un autre mode de présence dans le monde pour pouvoir justement être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus reviendra, il le promet, au moment de l'ascension. Il reviendra, c'est la grande promesse de l'ascension, mais en fait, il n'est jamais vraiment absent. Son esprit, donc, le rend présent dans la vie de ses disciples, dans notre vie, aujourd'hui. Et en attendant son retour, les disciples ont du pain sur la planche. On peut le dire, puisqu'ils reçoivent justement la mission de partager au monde le pain de vie. Le pain de vie. C'est Jésus lui-même dans l'évangile de Jean. Jésus dit dans Luc 24, verset 47, « On prêchera au nom du Christ la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. » On prêchera au nom du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, au nom du Christ? Ça veut dire que nous sommes désignés pour le représenter, pour être porteurs de sa vie, de sa puissance, de sa gloire, de sa lumière dans le monde, au nom du Christ. Tout est dit dans cette petite formule. Elle exprime ce que le Seigneur attend de nous maintenant. Si nous voulons être ses disciples, il n'est plus présent physiquement, mais c'est nous qui sommes, au nom du Christ, dans le monde, pour le manifester. C'est vous qui êtes témoins de la résurrection et du salut, redit Jésus à chaque génération de chrétiens, et qui nous le dit à nous ce soir. Le royaume des cieux est à ses disciples, il l'a dit, le royaume des cieux est parmi vous, avec la promesse un jour de le voir dans l'accomplissement, dans la plénitude de ce qu'il sera, quand nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mais en attendant la venue du royaume que Jésus promet au moment de l'ascension, il ne sert à rien de rester à regarder vers le ciel. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Ça, c'est une expression de l'apôtre Paul. Voilà, l'ambassade, c'est un mot qui doit parler à certains d'entre vous, ici présents, un mot qui parle fort quand on est réfugié, quand on vient d'un autre pays et qu'on doit trouver abri dans un pays étranger comme le nôtre. Eh bien, nous sommes un peu comme des ambassadeurs dans un pays qui n'est, dans un royaume, dans un, une situation qui n'est pas celle que nous attendons. Notre allégeance, elle est pour le Christ, avant d'être pour n'importe qui d'autre, quel gouvernement, quelle autorité, mais nous sommes en ambassade au nom du Christ, c'est-à-dire que nous sommes les représentants du royaume de Dieu. C'est bien d'être ambassadeur. C'est un bon poste d'être diplomate, paraît-il. Ça peut être dangereux parfois, ouais, on le sait, malheureusement. Alors, en quoi cela consiste-t-il? L'apôtre Paul fait comprendre que cette ambassade engage l'être tout entier. Il s'agit de suivre le Christ jusque dans les plus petits aspects de l'existence. Ouais, il ne s'agit justement pas d'être un diplomate avec tous les honneurs qui sont dus, mais de suivre le Christ, d'être son représentant dans les plus petits aspects de l'existence. Il y a cette phrase dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Faites-le, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est un petit peu mon dada, je dis, quand je parle des épîtres de Paul, où j'essaye de faire comprendre que ces épîtres, elles ne sont pas toujours simples. Parfois, elles sont même un peu fastidieuses à lire, parce qu'on a l'impression que Paul s'attarde sur des détails de la vie des églises de l'Antiquité qu'il devait gérer, des petits problèmes. Voilà, sur la tenue des femmes, sur les divisions, sur les partages pendant les repas, etc. Bien que ce soit aussi d'actualité, ce genre de choses. Et on se dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? Mais toujours, même dans ces petites choses qui nous paraissent peut-être accessoires dans les épîtres de Paul, brille la lumière de Jésus ressuscité. À travers ces petites choses, Paul annonce Jésus ressuscité et exhorte ses correspondants à être des ambassadeurs du royaume de Dieu, à être porteurs de la vie du ressuscité. Si Paul nous demandait de toujours, voilà, il dit tout ce que vous pouvez dire ou faire, s'il en était resté là, pourrait dire, oh là là, ça pourrait être décourageant, on en a des choses à faire, on est bien loin de porter la lumière de Dieu. Mais il dit de rendre grâce dans ce que nous faisons. Rendre grâce, ça veut tout simplement dire merci, être reconnaissant, être dans la joie de tout recevoir de la part de Dieu. C'est un élan joyeux sur le chemin de la vie. Tout ce que nous faisons, c'est pour dire merci. Une libération, hein, pour dire à Dieu que nous l'aimons, parce qu'il nous a tout donné. Et c'est cet élan de joie et de reconnaissance qui a entraîné les apôtres sur le chemin de l'évangélisation du bassin méditerranéen. Je vous rappelle que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, hein, pas la triste nouvelle. Hein. Si les apôtres avaient annoncé une triste nouvelle dans le bassin méditerranéen, eh bien, ça n'aurait jamais pris, hein, ça n'aurait jamais eu d'impact. C'est une bonne nouvelle et encore meilleure parce que ce n'est pas eux qui l'annonçaient, mais c'était l'Esprit de Jésus qui les habitait et qui rayonnait à travers leurs paroles et à travers les plus petites choses même qu'ils pouvaient accomplir. Le chrétien est donc quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui dit merci. Sa vie dit merci à Dieu parce que, à cause de lui, à cause de notre péché, mais aussi pour nous, pour ce que nous sommes, le Christ a souffert et est ressuscité des morts le troisième jour. Le Christ s'est donné pour nous et le Christ s'offre à nous encore aujourd'hui, chaque jour, pour nous remplir de son esprit et pour nous faire renaître à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Alors vous voyez, l'ascension, c'est bien une fête. Ce n'est pas un jour triste. On dit, Jésus disparaît, il n'est plus là, nous sommes tout seuls, voilà, orphelins. Jésus a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. L'ascension n'est pas la fête d'une absence. C'est au contraire l'annonce d'une présence encore plus grande, plus intime, plus forte, plus universelle que celle du Christ que l'on pouvait toucher et voir avec nos sens. Il est maintenant présent au plus intime de nous-mêmes. Et cette bonne nouvelle nous rend aussi, nous, à notre tour, présents au monde, pour aimer nos frères et sœurs, pour leur dire leur salut, pour être les témoins de l'amour de Dieu. Les derniers mots de l'évangile de Luc évoquent la joie. Vous savez, on appelle l'évangile de Luc l'évangile de la joie, ou l'évangile des petits, c'est selon, dans les deux sens, mais enfin bon, en tout cas l'évangile de la joie. Il commence avec la joie de Noël, pas rien, la joie de Noël, même avant Noël, la joie de Marie et de Zacharie à l'annonce de la naissance de leurs enfants. Et il se termine avec la joie des disciples qui voient Jésus disparaître et qui sont tout contents. C'est ce qui est dit. Ils sont tout contents parce qu'ils ont la promesse. Dans quelques jours, Jésus viendra les habiter et il ne les quittera plus jamais. Et cette joie, c'est la nôtre ce soir. C'est celle de tous les disciples de Jésus qui ont compris que leur vie prend tout son sens quand, avec Jésus, elle se remet entre les mains du Père et quand elle reçoit du Père l'Esprit qui est celui du ressuscité, l'Esprit de Jésus-Christ.